quand c'est l'Esprit de Dieu qui conduit, je peux vous dire, Dieu sait exactement ce qu'il fait. Moi, je ne sais pas bien souvent ce que je fais, mais lui, il sait. D'accord ? Alors, c'est pour ça que ce matin, la Bible dit ceci, les Saintes Écritures disent ceci, il dit, celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Et qui ne s'est jamais précipité pour faire quelque chose, qui ne s'est jamais trompé. On s'est tous trompés un jour et on se trompera encore. Nous allons de progrès en progrès. D'accord ? Et la Bible dit ceci, celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Cela se trouve dans Proverbe, c'est vous qui prenez note, je vous le donne comme ça. Et ça, c'est le verset 2 de Proverbe 19, pour vous qui prenez des notes. Et le verset 21 de Proverbe 19 dit ceci, « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. » Et vous savez, dans les temps que nous vivons, chaque projet doit être mis devant Dieu. Comme ne voulant pas se tromper, comme ne voulant pas faire des choix qui peuvent avoir demain des conséquences terribles. Il y a dans le cœur de l'homme, la Bible ne nous dit pas une catégorie d'homme, mais dans le cœur de l'homme, beaucoup de projets. Mais il dit ensuite, mais ce sont les dessein de l'Éternel qui s'accomplissent. Et ce que nous voulons, c'est de ne pas faire nos propres volontés, ni accomplir nos propres desseins, mais de soumettre cela à Dieu pour que ça soit la volonté de Dieu qui est priorité sur ce que nous pensons. Vous dites amen ? Moi aussi je dis amen. Il dit, ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. C'est-à-dire, est-ce que ce que nous avons comme projet, auquel nous pensons que cela vient de Dieu, auquel nous pensons les portes qui s'ouvrent, c'est Dieu qui les ouvre. Non, ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas parce qu'une porte s'ouvre que c'est la main de Dieu qui ouvre la porte. Il faut encore que quand cette porte s'ouvre, nous puissions demander à Dieu, est-ce bien toi qui as ouvert la porte ? Parce que je connais un homme dans la Bible, cet homme n'était pas obligé de consulter Dieu. C'était un roi qui était en déportation, c'est-à-dire il était en exil. Il s'appelle David. Mais la Bible nous dit, avant qu'il soit sur le trône, il y en avait un qui s'appelait Saül. Et David, dans chaque décision, la Bible dit que David consultait Dieu. Même pour savoir où il devait aller habiter, il consultait Dieu. Si pour nous, on dit, mais non, la porte s'ouvre, le crédit est donné, on peut y aller, c'est faux. Ce n'est pas parce que la porte s'ouvre, ce n'est pas parce que la banque vous accorde un crédit qu'il faut dire « Amen, ça vient de Dieu ». Il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais ce sont les desseins de Dieu qui s'accomplissent. Je le répète. Et sur un même sujet, devant un même problème, David a consulté Dieu deux fois. Et pourtant, c'était un homme, il aurait pu dire, je suis roi, j'ai l'Esprit de Dieu, j'ai des prophètes à mon service qui sont là, je fais ceci, j'y vais, et Dieu m'accompagnera. Il a eu un désir, c'était de bâtir une maison pour Dieu. Il en a parlé aux prophètes. prophète lui a dit, mais vas-y, fais ce qu'il y a dans ton cœur. Et ensuite, Dieu parla au prophète, il lui dit, va dire à mon serviteur, ce n'est pas lui. Parce qu'il a les mains, David était un guerrier, c'était un soldat, c'était un homme qui a tué beaucoup de gens. Et quand vous tuez les gens comme ça, c'est comme ça, hein. Il avait du sang sur les mains. Et Dieu lui a dit, non, c'est pas lui, ça sera son fils Salomon. Mais il avait un beau projet dans le cœur. Comme chacun d'entre nous, nous avons des projets dans le cœur, petits ou grands. Mais avant de mettre en œuvre, il faut consulter Dieu. Et je le répète, même si la porte s'ouvre, il faut encore demander à Dieu encore une fois, Seigneur, est-ce toi qui ouvres cette porte? Pourquoi? Afin que si vous rentrez par cette porte, si vous rentrez par ce projet, c'est un projet, la Bible dit que la bénédiction de Dieu ne se fait suivre d'aucun chagrin. Vous savez, quand Dieu bénit quelqu'un, quand Dieu accompagne quelqu'un, quand Dieu ouvre une porte, quand Dieu permet que le projet de quelqu'un ou les désirs du cœur d'un homme ou d'une femme, de ses enfants, eh bien, quand Dieu approuve cela, la Bible dit qu'il dispose même le cœur de ses ennemis en sa faveur. Voyez jusqu'où Dieu va, notre Père Céleste. Eh bien, écoutez, la porte qui s'ouvre, eh bien, si ce n'est pas Dieu qui l'ouvre, alors je vous pose la question. Parenthèse, pause. Est-ce que vous croyez que quand nous prions, le diable entend? Est-ce que vous croyez que le diable sait ce qu'il y a dans notre cœur? Non. Il ne sait pas ce qu'il y a dans notre cœur. Dieu sait ce qu'il y a dans notre cœur, puisqu'ils sont nos cœurs et nos reins. Mais le diable ne peut pas sonder nos cœurs, ni sonder nos reins. Il est limité dans son pouvoir. Dieu est illimité. Et la Bible nous fait savoir que dans nos cœurs, dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de choses qui se passent. Vous êtes d'accord avec moi? Je reviens, la parenthèse. C'est que quelquefois, les enfants de Dieu que nous sommes, nous faisons parler Dieu. Et pourtant, Dieu reste silencieux. Nous faisons parler les autres, et comme l'adversaire ne sachant pas ce qu'il y a dans notre cœur, alors quand il nous entend prier, quand il nous entend remettre les choses devant Dieu, nos projets, parce que la Bible dit « remets tes projets devant Dieu et elles réussiront ». Quand il nous entend prier, lui, à peine qu'on a terminé, ce qu'il fait, parce que il est le singe de Dieu, il se déguise en ange de lumière. Il va nous faire croire que la porte qui s'est ouverte, c'est Dieu qui l'a ouverte. Et c'est pour cela que même si la porte s'ouvre, il faut encore demander à Dieu. Ce n'est pas un manque de foi. Il y a des prières que certains chrétiens font en disant, Seigneur, si on arrive à tel endroit, il se passe ça, c'est que c'est dans ta volonté. Et pourquoi après des années tu pleures et pourtant tu as cru que c'était dans la volonté de Dieu? Ça veut dire quelque part, tu as manqué de jugeote, d'intelligence et de sagesse. Même s'il y a une dizaine de portes qui s'ouvrent, il faut savoir quelle main qui a ouvert ces portes. Parce que l'adversaire aussi ouvre des portes. Mais derrière ces portes qu'il ouvre, le futur est catastrophique. Mais quand Dieu ouvre une porte, mes bien-aimés, je peux vous dire, au début c'est bon, au milieu c'est bon, et à la fin c'est encore plus bon. Parce que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit, et elle ne se fait suivre, écoutez bien, d'aucun chagrin. Alors pourquoi ton cœur est chagrin et chagriné? Pourquoi aujourd'hui tu te grattes la tête? Pourquoi aujourd'hui tu as été contraint, forcé de faire un crédit? Et si c'est pas le Seigneur qui te secourt, c'est des morceaux de pain et des pommes de terre et des carottes que tu manges, ou des pâtes. Et pourtant, Dieu aurait voulu que tu aies de l'abondance. La Bible dit ceci, si quelqu'un a à se plaindre, il n'a qu'à se plaindre de son propre péché. C'est pour cela que, frères et sœurs, nous devons rentrer en nous-mêmes et ne pas donner à Dieu ce qui n'est pas pour lui. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Quand c'est Dieu qui bénit, on n'est pas en train de ramer, comme on dit, en train de galérer. On n'est pas en train de ramer, en train de se faire des efforts monstres. Dieu aplanit. Dieu facilite. Et je l'ai dit, il dispose même le cœur de nos ennemis en notre faveur. Quand Dieu ouvre une porte, je peux vous assurer que derrière cette porte, il y a la bénédiction de Dieu. Je le répète, je n'ai pas consulté la personne qui a donné ce don, mais je remercie Dieu de ce qu'il a eu la bonté de nous avertir et de nous avertir encore ce matin. Proverbe pour ceux qui prennent des notes, 16, verset 1er, nous dit ceci, les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Ça, il y a dans le cœur des jeunes, des moins jeunes, sauf que de ceux qui ont des cheveux blancs et qui sont atteints dans leur santé, la banque ne vous accorde pas cette facilité comme ils l'accorderaient à d'autres, beaucoup plus jeunes que vous. Parce que eux, ils voient leur intérêt. Mais les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Dieu ne nous empêche pas d'avoir des projets. Dieu ne nous empêche pas de faire des projets. Il ne nous empêche pas. Mais il veut qu'avant que nous fassions quoi que ce soit, que nous nous asseyions, que nous nous mettons à ses pieds, et que nous ne bougeons pas tant que Dieu ne nous a pas, n'a pas levé la main en disant, va. Si Dieu lève la main, il y a un temps où il lève la main, ça veut dire j'ai entendu. Et il y a le temps qu'il donne la réponse, ça veut dire, tu peux y aller, il peut s'écouler des mois et des semaines. Est-ce que vous me suivez? On est devant Dieu, on dit Seigneur, hein? Dieu dit d'accord, j'ai entendu. Mon enfant. Et on dit, Seigneur, d'accord, oui, t'as entendu. Et alors, Dieu dit, calme-toi. Reste tranquille. Parce que c'est dans le calme et la confiance que sera ton salut. Reste tranquille. Alors, il y a l'agitation. Parce qu'on dit, et c'est pour ça le danger, c'est qu'on va courir aller dire, ah, oui, Dieu m'a entendu, je suis convaincu. Oui, t'as entendu. Mais est-ce qu'il t'a dit « va » Il n'a pas encore fait ce geste en disant « va ». Mais si tu cours, et c'est là que tu tombes, la Bible dit « celui qui précipite ses pas tombe dans le péché ». Et c'est pour cette raison qu'il ne faut pas que nous précipitons dans quoi que ce soit. Et que nous prenons le temps, cela va derrière cette recherche de connaître la volonté de Dieu, cela va développer en nous la patience. Et Dieu sait combien la patience fait défaut dans beaucoup de cœurs de ses enfants. La Bible dit que Moïse était un homme qui était fort patient. Bien sûr, il fallait qu'il conduise 600 000 hommes, sans compter les vieillards, les enfants, je crois bien. Mais la Bible dit que Moïse était fort patient. Dieu veut nous apprendre ce que c'est que la patience. Être patient. Et il veut aussi nous éduquer à persévérer dans la prière. Vous avez vu cet exemple qu'il nous donne, cet homme qui est venu de nuit chercher trois pains pour un ami qui était venu arriver dans la nuit chez lui. Il a insisté. Les plus grands réveils en France et en Europe, ou en Angleterre, ce sont des hommes et des femmes qui ont insisté, même persévéré devant le trône de Dieu, pour que Dieu amène un grand réveil. C'est pour cela que, quand les projets que nous avons dans le cœur, c'est quelque chose qui pour nous, nous tient à cœur, comme on dit, eh bien on va pas se précipiter, on va prendre le temps de bien mettre cela en place, de bien prendre le temps de consulter Dieu, et ensuite d'attendre la réponse de Dieu et la direction que Dieu nous donnera. Vous êtes d'accord, mes bien-aimés frères et sœurs? Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, dit l'Écriture. Mais, il y a un mais qui arrive derrière, la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Je le répète, les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Ça, c'est l'homme, ça, c'est nous. Mais, vous avez vu, la réponse que nous devons attendre, ce n'est pas de la bouche d'un homme, ni du cœur d'un homme. C'est pour cela qu'il ne faut pas consulter les hommes, il faut consulter Dieu. Et il dit, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Et pour que Dieu puisse parler, il faut qu'on soit à l'écoute. Et je peux vous dire, dans certaines décisions, Dieu n'est pas d'accord avec nous. Et c'est pour cela que, c'est parce que nous avons déjà des oui dans le cœur, que Dieu quelquefois nous dit non, nous entendons même pas son nom. Parce que dans notre cœur, on est à fond, on est dans la précipitation, on dit ah, et on commence à en faire part à tout le monde. Et je peux vous dire, il y a des portes qui s'ouvrent. Mais ce ne sont pas des portes dont la main de Dieu a ouvert. Et c'est pour cela que beaucoup sont dans la difficulté, sont sortis parce que Dieu les a secourus, mais sont encore dedans. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Nous avons un exemple dans la parole de Dieu que je vais prendre avec vous. C'est David, justement, on en parlait tout à l'heure. Et David, nous allons dans... Alors c'est dans 1 Samuel. Vous connaissez le livre de Samuel ? Il y a Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel. 1 Samuel, le chapitre 30, je crois, c'est ce que j'ai noté. C'est un texte pour un peu étayer un petit peu la pensée. Toujours pour vous dire que David ne prenait pas des décisions dans ce qu'il faisait, il ne le faisait pas par lui-même. Et pourtant, il était roi. Il aurait pu dire, je suis roi, ben voilà, je fais ce que je veux. Non, non. Et en fait, c'était ça la clé de sa réussite à David. Dieu a dit à David, j'ai toujours été avec toi. Dans les campagnes de guerre, où les ennemis, où il allait les attaquer, Dieu lui donnait toujours la victoire. Pourquoi ? Parce que Dieu l'accompagnait. Pourquoi ? Parce que David consultait Dieu, même pour savoir, mes frères et sœurs, quelle stratégie opter pour attaquer l'ennemi. C'est précis. On voit vraiment que c'était un homme, il avait compris quelque chose, que le succès dépendait de sa consultation, du fait qu'il consultait Dieu avant d'agir. Parce que quelquefois, imaginez-vous que David prend une décision sans consulter Dieu, et il connut de grandes défaites, je peux vous dire, les ennemis autour diraient, mais oh David, toi qui es roi, qu'est-ce que tu fais? Regarde, quel témoignage! Parce que les gens nous observent. Les gens nous regardent. Et quand vous dites à quelqu'un, oui, je suis chrétien, je suis chrétienne, Dieu m'a béni, Dieu ceci, et quelques temps après, la personne vous croisez la personne, quelques années après, la personne vous voit triste. Il dit, alors, mais ça va, toi? Vous allez bien? Et vous dites, ouais, ça va. Ça y est, ça a changé quelques années, quelques mois après. Pourquoi? Mais, et Dieu permet que la personne insiste. Mais vous avez l'air triste. Vous rigolez? C'est pour vous emmener, parce qu'on peut pas tromper. Je veux dire, les gens nous observent, nous regardent. Et ils savent sentir ce que c'est que la joie éphémère et la joie qui est concrète. Et en fait, ils recherchent cela. Ils recherchent le concret. Comme je le disais au début, ils ne recherchent pas l'éphémère, l'émotion. On regarde une situation qui nous donne un peu de joie et après, on est obligé de regarder autre chose pour nous entretenir constamment. Les gens sont à la recherche de ce qui est concret. Et le concret, c'est le chrétien qui l'emmène. Par sa communion, par sa vie avec Dieu, par ce qui reflète, qui émane de lui. Et ça interpelle les gens. Eh ben, cette personne dit, mais... Et en réalité, vous n'osez pas lui dire que vous êtes dans une situation catastrophique. Pourquoi? Parce que il y a le témoignage. Alors, vous prenez la fuite, vous coupez court la discussion et vous dites, j'ai un train à prendre ou je dois rentrer. Enfin, je le dis comme ça. Peut-être que vous êtes déjà confronté à ce genre de situation. 1 Samuel, chapitre 30. Vous attendez le verset, c'est ça? Une situation catastrophique. David était dans un problème terrible. Et le problème de David, c'est que on le voit, on le lit là. David était parti faire la guerre. Et lorsque David est revenu, il trouva ni femme, ni enfant avec ses hommes. Il trouva que le camp, l'endroit où il avait laissé les femmes, les enfants, la famille, quand il revient, il ne trouve plus personne. Il trouve que tout était brûlé, cramé, excusez-moi l'expression, brûlé, et plus personne. Au lieu de se précipiter en disant « Ah !» ou d'en vouloir à Dieu, ou de dire « Hé !» Et en plus, les hommes qui étaient avec lui commençaient à murmurer en disant « Un peu, on est parti avec toi, on revient, on est encore dans les problèmes. Nos femmes, nos enfants, il n'y a plus rien. » Que fit David? Est-ce que David a dit « Bon, vous êtes encore, vous n'êtes pas trop fatigués ?» On va y aller. Non. Regardez ce que fait David. À partir du verset 4, pour bien comprendre un peu cette histoire. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. David ne se précipita pas. Il ne se précipite pas, pardon. Mais il éleva la voix avec tous les hommes et ils pleurèrent. Les deux femmes de David avait été amené, c'est-à-dire un enlèvement, à Shinoam de Jisraël et Abigaël, qui était la femme de Nabal. Cet homme qui était riche et qui faisait, il avait de grands biens, et David avait faim avec ses hommes, et David avait envoyé ses hommes, demander à cet homme des figues, des dattes, enfin, de quoi se donner la force. Et cet homme a dit, mais qui est David? Il a méprisé le roi. Et ensuite, c'est sa femme qui est venue à son secours sans même qu'il soit au courant. Bref, c'est une belle histoire que je ne raconte pas. Abigaël, parce que Dieu a tué Nabal. Abigaël de Carmel, femme de Nabal, que Dieu a tué d'ailleurs. David fut dans une, pas une petite, mais une grande angoisse. Il était angoissé, car le peuple parlait de le lapider. Ce même peuple, ces hommes qui étaient avec lui, c'était des hommes qui avaient une légèreté, qui avaient une dextérité dans le maniement des armes. C'était des hommes, vraiment des hommes, qui avaient fait le choix de suivre David dans sa fuite, parce qu'il était en fuite par rapport à Saül. Et ces hommes-là, à cause du problème, dans leur cœur, ils commençaient à se soulever en disant, on va le lapider celui-là. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. Chacun à cause de ses fils et de ses filles qui avaient été enlevées. Par qui? Par les Amalécites. Les Amalécites, c'est les descendants d'Amalek. Amalek, c'est lui, ce peuple qui est venu, après que Israël est sorti d'Égypte, est venu attaquer les plus faibles. D'où a emmené Moïse à monter sur la montagne avec Aaron et Hur. Et pendant que Moïse luttait dans la prière, Israël avait le dessus dans la vallée. Et Moïse a dit à Josué, le jeune serviteur, « Josué, choisis-nous des hommes et va combattre Amalek. » Amalek, les Amalécites, ce sont les descendants d'Amalek. Amalek, ça veut dire la chair. Ça veut dire que, tôt ou tard, dans cette histoire, l'humain, la chair, veut reprendre le dessus sur l'esprit. Mais nous devons ne pas nous laisser envelopper par les décisions que nous prenons à la légère, de manière charnelle, mais nous devons consulter Dieu. Vous avez compris là dans cette histoire, les Amalécites, qui est l'image de la chair, veut décider à la place de l'esprit. Viens pour déstabiliser, viens pour ouvrir les portes, en nous disant « c'est la volonté de Dieu, rentre-y ». Mais regardez l'attitude de David. Mais, la deuxième partie du verset 6, David, qu'est-ce qu'il fit? Il reprit courage. Alléluia. Mon frère, ma sœur, quoi que tu aies fait, on est en train de débattre ensemble ce matin. Quoi que tu t'es trompé, tu t'es précipité, sache que cette parole de Dieu est pour toi. Tu dois reprendre courage parce que Dieu n'est pas celui qui t'accable encore plus que tu ne l'es. Jésus a dit, prenez mon joug. Pourquoi? Parce que mon joug est doux et mon fardeau est léger. C'est ça que Dieu veut ce matin pour toi. Il veut que tu enlèves ce joug de ta propre décision, de tes propres choix. Il veut que tu l'enlèves, ce manteau lourd, et que à nouveau tu reprends ce joug de Jésus qui est doux. Le fardeau qu'il met sur tes épaules, ce n'est pas lourd. Dieu sait combien la vie ici-bas déjà est lourde. Eh bien, il ne va pas nous alourdir la marche. Au contraire, il nous allège pour que nos pieds soient comme les pieds des biches et que nous puissions non pas marcher, mais courir dans la carrière qui nous est présentée. Les yeux fixés sur Jésus. Amen. Nos yeux fixés sur lui. David reprit courage. Comme toi ce matin, comme moi ce matin, nous reprenons courage. Comment? En nous appuyant sur l'Éternel, notre Dieu. Dans Éphésiens chapitre 6, je crois au verset 10, il est dit ceci, « Fortifiez-vous dans sa force toute puissante. » C'est là que nous devons aller puiser nos forces pour reprendre courage et pour reprendre le chemin et reprendre le combat parce que tu es un guerrier, mon frère, et tu es une guerrière, ma sœur. Amen. Ce n'est pas parce que tu t'es trompé que tu dois t'arrêter. Non, tu dois reprendre courage ce matin. Tu dois te redresser. Et tu dois aller trouver Jésus, ton sauveur et ton maître, entre toi et lui. David a fait cela, il a dit au verset 7, il dit au sacrificateur Abiathar, il dit à Abiathar, viens, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiathar apporta l'éphod à David. Et David, qu'est-ce qu'il fit, verset 8? Il consulta l'Éternel. Il ne s'est pas précipité devant une situation catastrophique, devant un problème qui le touchait lui et les hommes qui étaient avec lui. David ne s'est pas précipité en disant « Allez, on y va, on repart à la guerre, on va chercher femme et enfants. » Non. Bien qu'il y avait un danger, mais Dieu, dans sa bonté, avait sa main sur ceux et celles qui appartenaient à David, mais aussi à ses hommes. Vous avez remarqué, les Amalécites, c'est un peuple très sauvage, très méchant. Quand ils passaient quelque part dans le livre, des juges, Gédéon, l'histoire de Gédéon, quand il venait chaque année, les Israélites plantaient, et ça rapportait beaucoup, beaucoup de légumes. Les Amalécites arrivaient comme des sauterelles. Sur leurs chameaux, là. Ils arrivaient comme ça, comme des sauvages, et ils ramassaient tout. Ils détruisaient tout. Et Israël se retrouvait là, sans rien. Et c'est à partir de ce moment-là que la Bible nous dit que Gédéon, il était où? Il était en train de travailler le blé au pressoir. Il était en train de mettre à l'abri, de protéger ce qu'il pouvait protéger pour nourrir sa famille. Vous voyez, hein? Les Amalécites, c'est un peuple, quand ils passent quelque part, ils égorgent. La preuve, au verset premier, la Bible dit ceci, « Lorsque David arriva le troisième jour à Siklag, avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le midi et à Siklag. » Même si je le dis pas bien, vous comprenez, vous lisez comme moi. Ils avaient quoi? Détruit. Ça, c'est le propre de l'ennemi. Jésus dit, il vient pour égorger, détruire et tuer. Dans Jean chapitre 10, je crois bien. L'ennemi, quand il vient quelque part, il vient pour égorger et détruire. Tant qu'il ne voit pas le sang, il n'est pas content. Et les Amalécites, justement. Rendez-vous compte, ils arrivent quelque part, ils ne trouvent pas de protection, ils ne trouvent pas d'opposition. Ils trouvent des femmes, des enfants, des vieillards peut-être qui étaient là dans ce camp. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils détruisent. Ils détruisent et brûlent cet endroit. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Vous voyez, ils ne laissent rien. Ils n'avaient tué... Merci Seigneur. Personne. Dieu avait permis, n'avait pas permis qu'il puisse tuer qui que ce soit. Pour bien nous montrer que derrière, Dieu protégeait David. Et ne voulait pas attrister le cœur de David ni ses hommes encore plus. Nous revenons au verset 8. Et David consulta l'Éternel en disant, qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Normalement, quand tu es attaché à ce à quoi Dieu t'a donné, les enfants, les femmes, les hommes étaient là, ces hommes qui suivaient David avaient tout perdu comme David. Quand c'est comme ça, qu'est-ce que vous faites? La première réaction, c'est de dire, je vais aller chercher ce qui m'appartient, oui ou non? C'est ça en réalité. On ne cherche pas à réfléchir. On dit, il y avait ça, on me l'a pris, il faut que j'achète la même chose, je l'ai perdu. Mon beau portable, je l'ai perdu, il faut que je l'achète le même, encore plus cher. Sans consulter Dieu. Après, quand tu fais les comptes, tu dis, zut alors. Enfin, c'est des petits détails comme ça qui me viennent, je sais pas pourquoi ce matin. Il faut me tirer la veste quand il faut m'arrêter. Hein. Merci frère Alain, et mon frère Marc, et mon frère Loïc. Et David consulta l'Éternel en disant, qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Il pose la question à Dieu en lui disant, poursuivrai-je cette troupe? Est-ce que vous réfléchissez à cette question? David, il revient, il trouve ni femme ni enfant, ces hommes pareils, on est en train de chercher à dire, mais on va le tuer David, on va le lapider, à cause de lui on a tout perdu. Et David va consulter Dieu, on a l'impression, il est tranquille. Il dit pas, oh, il ne se précipite pas. Il va consulter Dieu, parce qu'il sait, un homme qui a cette réaction, notez bien cela, un homme qui a cette réaction, c'est un homme qui est habitué à consulter. Quand on n'est pas habitué à consulter, quand on n'a pas une intimité, une relation, une communion avec Dieu, eh bien on va se précipiter dans tout. On va se laisser influencer dans tout. Mais quand on a une communion avec Dieu, quand quelqu'un nous dit, ah, tu sais mon frère, ah, tu sais ma sœur, Dieu m'a dit, vous lui dites, ah, d'accord, je vais aller le trouver parce que c'est le mien aussi. Et vous allez le trouver. Et si Dieu tient le même langage que la personne qui vous l'a dit, vous dites amen. Et vous revenez trouver la personne en disant, mon frère, ma sœur, je dis amen à ce que tu dis parce que ça venait de Dieu. Parce qu'il me l'a répété exactement pareil. C'est merveilleux, hein? Eh ben, David, dans ce cas-là, dans cette situation, David ne s'est jamais précipité. Pourtant, est-ce qu'il aimait sa femme, ses femmes, Abigaël, etc. et l'autre? Il les aimait. Ses enfants? Il les aimait. Les hommes n'aimaient pas leurs femmes et les enfants, leurs enfants? Mais bien sûr! Mais vous avez vu, David ne s'est pas précipité parce qu'on voulait le lapider, ses hommes voulaient le lapider, non! Il a dit, vous pouvez me tuer si vous voulez, mais il faut que j'aille consulter Dieu. C'est extraordinaire. Ça paraît pas extraordinaire quand on le lit, mais dans notre esprit et dans ce que nous allons vivre, comme la bien-aimée disait tout à l'heure, dans le futur. Et il y a un lendemain. Après ce jour, il y a un autre lendemain, ainsi de suite, si Dieu nous laisse en vie. Et il dit ceci. David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? Il pose la question à Dieu, sachant qu'il y a femmes et enfants qui ont été kidnappés par les Amalécites. Un enlèvement a eu lieu et il ne sait pas, il ne voit pas le sang dans le camp, dans cette ville. Il dit bon, il n'y a pas de sang, c'est qu'ils ne les ont pas égorgés ni tués. C'est sauvage. Et il dit ceci, il pose la question à Dieu et il dit à Dieu, l'atteindrai-je ? Deux questions il pose à Dieu. Il prend le temps de consulter Dieu et de poser deux questions à Dieu. Poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? Et voilà la réponse de Dieu. Alléluia. La réponse de Dieu. Il n'a pas consulté, comme dit Paul, je n'ai consulté ni la chair ni le sang. Il n'a pas consulté les hommes, mais il a consulté Dieu. Et il dit ceci. L'Éternel lui répondit. Qu'est-ce qu'il lui dit? Poursuis. Alléluia. Dieu lui ouvre la porte. Là, c'est la main de Dieu qui ouvre la porte. Et je peux vous dire, si Dieu avait dit non, tu ne bouges pas, parce qu'il y a des situations. David a prié, une autre situation, David a prié, et Dieu a dit non. Tu ne monteras pas de face, façon de parler, attaquer l'ennemi. Mais tu vas le contourner. Dieu lui donne une stratégie autre, en disant, tu vas pas aller tomber, faire du face à face, du corps à corps. Dieu lui dit, tu vas contourner. Tu vas contourner et tu vas l'attaquer de derrière. C'est extraordinaire. Dieu détient les plans de nos succès dans notre vie chrétienne. Si nous vivons l'échec aujourd'hui à cause de nos choix, c'est que nous n'avons pas consulté Dieu et notre témoignage, elle est catastrophique pour les gens qui nous observent et qui nous regardent. Mais quand nous consultons Dieu, eh ben c'est le succès. Dieu nous donne du succès parce que nous le consultons à chaque fois avant de faire quoi que ce soit. Est-ce qu'il faut le consulter avant d'aller acheter une baguette? C'est insensé. Est-ce qu'il faut le consulter pour savoir comment faire cuire le steak? C'est insensé. C'est du bon sens. Mais pour ce qui est quelque chose qui vous tienne à cœur, entre manger un steak bien cuit ou pas cuit, aller acheter une baguette, c'est des consommations. Mais pour quelque chose qui vous tient à cœur et qui a un poids dans votre cœur, il y a beaucoup de projets. Acheter une baguette, c'est pas un projet. Construire une tour, oui, c'est un projet. C'est beaucoup plus lourd. Et ça a beaucoup plus de conséquences. Et il dit ceci, pour revenir au texte, il dit, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis! Car tu atteindras et tu délivreras. Vous avez remarqué que Dieu répond à David de manière précise, de manière claire. David dit, poursuivrai cette troupe. Dieu lui dit, poursuis. Voilà la réponse à ta première question, David. La deuxième, l'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, car tu atteindras. Dieu lui donne, c'est pour ça que je vous le dis, mes bien-aimés, ne faites pas parler Dieu et ne dites pas que Dieu m'a dit. Dieu est un Dieu de précision. Quand tu demandes quelque chose de précis à Dieu, attends-toi à la réponse précise. Dieu ne sème pas le trouble dans notre cœur. Il n'est pas un Dieu de trouble, il est un Dieu d'ordre, non pas de désordre. Il ne peut pas nous troubler. Bon, il va nous troubler quand il voit qu'on est... Bon, il a ça aussi dans son magasin, comme je peux dire. Il peut tout. Mais je parle de ce sujet-là. Dieu ne peut pas. Quand on vient, on dit « Seigneur, il y a ça précisément. J'ai besoin d'une direction précise par rapport à ça précisément. » Dieu dit « Vas-y, à ta prière précise, je réponds, je donne une réponse précise. » Pourquoi ? Parce que dans la réponse de Dieu précise, ça, il y a la paix de Dieu qui accompagne. La Bible nous dit de faire connaître à Dieu nos besoins. C'est-à-dire nos besoins avec précision. « Seigneur, il y a ça, précisément, il y a ça. » Par des prières, des supplications, et il rajoute avec action de grâce, c'est-à-dire nous devons lui rendre grâce après, lui avoir fait connaître. Et ensuite il dit la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Vous voyez l'effet de la paix de Dieu ? Quand Dieu nous donne sa paix, on n'est pas troublé. C'est une paix qui garde notre cœur en Jésus-Christ. Et c'est là que nous sommes en paix et tranquilles. Et il dit, tu atteindras, et ensuite il rajoute, Dieu lui donne la cerise sur le gâteau, parce que Dieu peut te dire, vas-y, poursuis, tu vas les atteindre, mais ils vont être victorieux sur toi. Non, il dit, tu délivreras. C'est-à-dire, tu vas délivrer ceux que les Amalécites ont liés, parce qu'ils liaient les gens, et ils avaient pas de chameaux, enfin ils avaient des chameaux pour eux, mais les gens qu'ils prenaient comme otages, ils les faisaient marcher dans les déserts comme ça, pour les emmener je ne sais où, dans leur camp. Il les liait, et il dit, tu vas les délivrer. Alléluia. David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils n'étaient pas nombreux. Et je crois que les Amalécites étaient plus nombreux qu'eux. Ils arrivèrent au torrent de Bessor, qui veut dire bonne nouvelle, réjouissance, où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. Parce que dites-vous bien qu'ils revenaient d'une campagne de guerre, et là ils arrivent dans leur camp, dans la ville, et ils voient que tout femme et enfant avait été kidnappé. Et là, certainement, des hommes parmi les 600 hommes qui étaient avec lui, certains étaient fatigués. Ce n'est pas dans le grand nombre que Dieu prend plaisir. Vous pouvez être seul face à toute une armée. Si Dieu est avec vous, qui sera contre vous ? Dans une décision que vous allez prendre, dans un projet que vous allez mettre en place devant Dieu, même si beaucoup se lèvent pour s'opposer à cela, si Dieu est avec vous, personne ne peut se lever et se mettre contre vous. Ils peuvent se mettre contre vous, mais ils ne peuvent pas vous bouger, parce que Dieu est avec vous. Vous comprenez cela, mes frères et sœurs. Et David continua au verset 10, la poursuite avec 400. Vous voyez, de 600, ils sont descendus à 400. Ça veut dire qu'il y a 200 qui sont restés là, parce qu'ils étaient fatigués. David ne les a pas contraints en disant « Allez, on y va, vous êtes fatigués, vous avez vos femmes et tout ça, on y va !» Non. Il y avait un amour particulier. Et c'était ces mêmes hommes qui voulaient le lapider, rappelez-vous. Et après que David ait consulté Dieu, que Dieu lui a dit « Vas-y, poursuis, atteins-les, et tu vas les délivrer en plus », eh ben, il y a eu 200 hommes qui s'arrêtèrent parce qu'ils étaient trop fatigués pour passer le torrent de Bessor. Ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien. Voilà un indice. Voilà un homme qui était là, que Dieu met sur le chemin de David. Et cet homme sera un élément, un instrument utile pour David. Parce que, vous voyez, quand Dieu accompagne un homme, parce que David a consulté Dieu avant, Dieu est capable, quand nous faisons sa volonté, d'emmener quelqu'un en disant « Oui, ma fille, oui, mon frère, oui, ma sœur, tu es dans la volonté de Dieu. » Comment il peut savoir ? Elle peut savoir ça. Dieu l'envoie pour nous encourager. Et là, cet homme, cet Égyptien, vient comme ça, mais c'est Dieu qui l'a permis. Et après, qu'ils conduisirent auprès de David. Ils lui firent manger, quoi? du pain et de l'eau. Vous avez vu? Ils ont nourri cet homme qui peut-être était fatigué, lui aussi. Eh ben, on lui donne à manger et à boire. On ne l'attrape pas, on ne le questionne pas, on ne l'interroge pas avant de lui avoir donné à manger. Il lui donne à manger, à boire et de l'eau. Et ils lui donnèrent un morceau d'une masse de figues sèches. Vous savez ô combien moi, quelquefois, vous mangez des figues, pour ceux qui aiment les figues bio. Eh bien, vous les mangez dans les figues séchées, il y a de l'énergie, il y a de la force. On donna à cet homme une masse de figues, et deux masses de raisins secs, fruits secs, vitamines, force. Après qu'il eut mangé, qu'est-ce qui se passe? Les forces lui revinrent. Voilà notre ami fatigué, car il n'avait point pris de nourriture et point bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. Faible, fatigué. David lui dit, « Qui es-tu ? Et d'où es-tu ?» Ça ne rigolait pas. Il répondit, parce qu'il avait mangé, il était lucide, maintenant il pouvait répondre. Il dit, « Je suis un garçon égyptien au service d'un homme, l'indice, amalécite. » Voilà la petite lumière, la petite chose que Dieu nous donne pour dire, « Tu vois, tu es dans ma volonté. » C'est un éclaireur, c'est un point important. Et voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné, bien sûr. Les amalécites, c'est comme ça. Il vient, il prend, et quand il te voit fatigué, il dit, « Vas-y, allez, et va être mangé par les vautours. » Mais Dieu est bon, parce que cet homme a été récupéré par David. Parce que j'étais malade, voyez. Au verset 14, « Nous avons fait une invasion dans le midi des Kérétiens, sur le territoire de Juda, et au midi de Caleb. » Et nous avons brûlé, voilà la ville où étaient les femmes et les enfants de David et des hommes. David lui dit, veux-tu me faire descendre vers ces troupes? Il devenait, comme l'Esprit de Dieu, il devenait celui qui allait conduire David exactement où se trouvaient les femmes et les enfants. Il dit après, et il répondit, jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas. Et que tu ne me livreras pas à mon maître, et je te ferai descendre vers cette troupe. Il lui servit ainsi de guide, voyez. Et voici les Amalécites étaient répandus, voyez, ils sont comme des sauterelles. Et vous voyez que ces personnes-là, un peu, ils sont là. Eh ben, c'est un peu comme des comment on les appelle? Ils viennent, ils ravagent tout là, un peu là, des barbares. Voilà, merci frère. Des envahisseurs, merci frère. Voilà, ils étaient là et voici les Amalécites étaient répandus sur toute la contrée, mangeant, buvant, parce qu'ils revenaient de campagne, et dansant. Vous voyez, ils mangeaient, ils buvaient et ils faisaient la fête autour des biens et tout ce qu'ils avaient ramassé. Et regardez, à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. David les battit. Depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain. David a mis autant de temps avec 400 hommes face à tout ce peuple. Il a mis un jour, je crois, et demi pour pouvoir les vaincre. Et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux. Vous voyez les chameaux ils utilisaient? Et s'enfuir. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris et il délivra, voilà l'accomplissement de la parole de Dieu, tu poursuis, tu atteins et tu délivres. Et il délivra aussi, qui? Ces deux femmes. Il ne leur manqua, écoutez bien, personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. Alléluia! Malgré l'attitude de David, du moins pas malgré, vous avez bien compris qu'avant d'aller chercher, combattre un ennemi qui est l'image de la chair, les Amalécites, avant d'aller récupérer, parce que la chair, quelquefois nous emmène, je le répète, à faire des choix qui nous donnent, qui nous emmènent dans des conséquences terribles dans notre vie. Et quelquefois Dieu, quand on s'humilie, quand on consulte Dieu, à nouveau, Dieu nous redonne le dessus sur la chair. Dieu nous donne de retrouver, de reprendre tout ce que la chair nous a volé. Est-ce que vous dites amen? Est-ce que vous voulez qu'on se termine là? Et la prochaine fois, on va poursuivre. S'il y a une prochaine fois, c'est quelque chose qui est riche. Parce que, je disais, souvent nous connaissons l'échec parce que nous avons omis de consulter Dieu. C'est ce que je disais. Nous avons considéré que ce n'était pas la peine de le consulter. Chose que nous ne devons plus faire, que nous avons fait, et je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit, la porte qui s'ouvre, on pense que c'est Dieu, en réalité Dieu n'est pas là-dedans, et qui amène à ce qu'on se trouve dans des situations un peu compliquées. Et il faut toute la grâce de Dieu, justement, pour venir nous secourir. La prochaine fois, on verra, pour aller faire la guerre, David consultait Dieu. Pour connaître les stratégies, comment combattre l'ennemi, David consultait Dieu. Même pour aller habiter dans une ville, il consultait Dieu. Et derrière tout ça, on n'a pas pu développer, parce que bon, c'est tellement riche, mais Dieu le permettra qu'on y reviendra. D'accord, mes frères et sœurs? Sur ce, on va prier un instant. On va rester, on va incliner notre tête, on va prier Dieu.